J'aimerais bien, je vais commencer par souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous ce matin et à ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Bien, juste une petite information aussi. La semaine prochaine, je vous invite à être présents autant que possible, les membres adhérents de l'Église, parce qu'on va donner les documents pour l'AGA. Il faut le donner 2 semaines avant l'AGA, qui est le 22. Donc, il faut la donner la semaine prochaine, les documents, vous les ayez en main, pour l'AGA qui se trouve à la fin du mois. Donc, c'est important d'être présent aussi la semaine prochaine, ceux qui veulent avoir les documents. Sinon, bien, sûrement, vous allez recevoir aussi par courriel. Vérifiez vos courriels. On va être temps de lire les documents pour qu'on soit prêt pour notre AGA le 22. On ait tous les documents en main, qu'on puisse ensemble bien travailler à l'œuvre du Seigneur. Donc, merci pour ce bon temps de louange ce matin. C'est toujours bénissant, c'est toujours un temps merveilleux, glorieux dans la présence du Seigneur. Et aussi, lorsque on a des nouveaux chants aussi, c'est assez le fun. Donc, ce matin, nous sommes le 2e mois de l'année déjà. 1er mois est terminé, 1er février ce matin, 2026. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a pour nous? Des grandes choses, parce qu'il est bon, il est grand, il est puissant, et il peut toutes choses. Et en introduction, bien, le titre du message ce matin, c'est « Remercier et adorer Dieu pour servir ». Donc, on est dans un thème cette année du service, de l'adoration, de laisser le Seigneur agir, le laisser prendre toute la place dans nos vies et au travers chacun des appels à laquelle il nous a placés. Donc, je dirais ce matin, en introduction, remercier, adorer le Seigneur à tous les jours, c'est avoir une vie spirituelle en santé. Et c'est aussi ce qui nous édifie dans le service. Donc, si je ferais le titre de ce message ce matin un peu plus élaboré, ce serait ça. Remercier, adorer Dieu, ça fait partie de la vie du croyant. C'est pas quelque chose quelque chose d'étrange ou quelque chose de caché. Et lorsqu'on vient dans une assemblée évangélique, c'est la première chose qu'on ressent, le besoin de remercier le Seigneur, de remercier Dieu. Lorsqu'on s'approche du trône de la grâce, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Bien, merci Seigneur pour tant de grâce, tant d'amour, tant de bonté envers nous. Merci de t'avoir donné ton Fils. Merci d'accomplir ta parole. Merci, merci, merci. Et on t'adore, Seigneur, pour toutes choses. Et ça fait partie d'une vie spirituelle. Hein? C'est comme notre booster spirituel ce matin qui nous pousse à avancer, à marcher avec Dieu. L'édification, l'adoration, le remerciement, tout ce qui vient de notre cœur, je dirais aussi. Et comme première référence ce matin, nous allons regarder Jean, l'Épître, ou plutôt l'Évangile selon Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Jean, Évangile selon Jean, ou Saint Jean, chapitre 4, versets 23 et 24, où nous pouvons lire « Mais l'heure vient », et c'est Jésus qui parle ici, il dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue ». Où les vrais adorateurs adoreront le Père, par l'Esprit ou en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande ou cherche, dépendant de la traduction que vous avez ce matin. C'est ce que Dieu cherche. Dieu est Esprit, verset 24, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Il faut, et j'aime cette, Cette expression, hein, où Jésus dit il faut. Ce n'est pas quelque chose qu'on néglige ou qu'on doit mettre de temps en temps à notre agenda, mais c'est quelque chose, c'est un devoir même d'adorer le Seigneur. Et c'est là que nous sommes appelés, frères et sœurs, à adorer Dieu. On peut se poser la question de quel temps à venir, Jésus parle ici, puisqu'au début du verset 23, à l'heure vient. On pourrait dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, c'est quelque chose qui doit venir aussi. Mais Jésus parle ici en nous disant que l'heure vient et elle est déjà venue. Ah, ici, on a un autre aspect, qu'elle est déjà venue, où la méthode de l'Ancien Testament pour s'approcher de Dieu arrive à son terme et sera remplacée. Dans différentes, dans un contexte un peu plus large ici, on voit de quoi Jésus parle. Et il dit, l'heure qui vient est celle de ma naissance qui est arrivée. Et elle est là. Et elle est venue par le Messie, en parlant de lui. Aussi, un nouveau temps est arrivé par le venu de l'Esprit, qui est arrivé après sa venue, lorsqu'il est retourné au Père. Ensuite, il y a un autre temps qui suit, qui est arrivé par la venue de l'Esprit, qui nous a été donné. L'Esprit du Seigneur, Jésus, devient un moyen. Hein, c'est de là qu'il est devenu un moyen par lequel les vrais adorateurs doivent adorer Dieu le Père. C'est intéressant. Lorsqu'on réalise qu'à partir de lorsque Jésus est venu, il y a un nouveau temps, il y a une nouvelle manière qui s'est intégrée, qui s'est rajoutée à la manière dont nous devons adorer Dieu. Et cette façon est venue par Jésus, qui nous a donné l'Esprit, qui nous a envoyé son Esprit. Dans le contexte de notre texte de ce matin, ces vrais adorateurs que Dieu le Père recherche sont ceux qui l'adorent en esprit ou par l'Esprit. Nous lisons verset 24 que Dieu est Esprit et nous savons que Jésus est la vérité et la vie. Voyons aussi le texte verset 25 où la femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ ». Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc, à partir de lorsque Jésus est venu, le Messie est arrivé, voici, la parole s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie. Jésus est le Messie attendu, c'est-à-dire celui qui allait apporter la délivrance et rendre libre son peuple. Mais ici, on parle spirituellement. Parce que les apôtres, les disciples, lorsqu'ils marchaient avec le Seigneur, pour eux, ils attendaient le Messie qui devait les délivrer des rois et ainsi de suite, des méthodes de l'Ancien Testament. Mais qu'ils pensaient aussi que Jésus allait s'asseoir sur le trône et régner sur la terre. Mais Jésus, lui, son royaume qu'il est venu établir, il est spirituel. Il est en esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc, dans la deuxième épître de Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17, Paul va revenir avec cette pensée, mais il va nous l'amener d'une autre façon. Et Paul nous dira dans 2 Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17, il dit, « Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur. Le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est quoi? La liberté. » Amen. L'Esprit du Seigneur amène la liberté spirituellement de notre oppression, de nos luttes intérieures, je dirais même, de venir nous soulager, nous donner une paix profonde. Et c'est là que le Seigneur agit. Donc, encore une fois, lorsque le cœur se convertit au Seigneur. Qu'est-ce que Paul nous dit à travers cela? Jésus nous confirme qu'il est esprit et il nous enseigne que lorsque notre cœur se convertit au Seigneur, que nous sommes changés et libérés de notre péché, de nos péchés, il y a une opération à cœur ouvert qui se produit en même temps. Le Seigneur vient et opère par l'Esprit notre cœur. Et dans d'autres traductions, il est dit, comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait son voile. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé, ou encore chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Tout devient clair. Tout devient clair. En ce qui concerne Moïse, lorsqu'il se présentait devant Dieu, ça nous dit que son visage devenait rayonnant par la présence de Dieu. Et lorsqu'il venait vers le peuple qui descendait, il devait se couvrir le visage à cause de la gloire qui reflétait dans son visage, qui reflétait la gloire de Dieu qui reflétait sur lui. Et il devait couvrir son visage le temps que la gloire parte, pour pas que ça paraisse, comme pour cacher combien de temps cette gloire allait rester dans son visage. Mais le Seigneur, lorsqu'il vient et qu'il convertit, qu'il change un cœur, cette gloire-là, elle demeure. Le voile qui nous cache la gloire de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, est enlevé. Est-ce que vous voyez cette image ce matin que les gens voient le Seigneur à travers toi ce matin, à travers nous. Lorsqu'ils nous regardent, ils voient la gloire de Dieu. Amen. Et ça me réjouit ce matin. Savoir que cette gloire-là n'est pas passagère seulement pour un court temps, comme du temps de Moïse, mais que la gloire de Dieu est là pour l'éternité. Lorsqu'elle rentre dans le cœur, dans la vie d'une personne, c'est pour l'éternité. C'est pas quelque chose qui va diminuer avec le temps, comme l'Esprit, lorsqu'il vient en nous, c'est pas une puissance qui s'effrite, mais c'est quelque chose qui demeure glorieux, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est l'Esprit du Seigneur qui vient habiter en nous. Wow! Gloire au Seigneur ce matin. Car la conversion signifie se retourner, se tourner vers l'adoration du vrai Dieu ce matin. Et cela, c'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs. Pourquoi se convertir au Seigneur? Pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Pour voir le Seigneur paraître en toi, resplendir en toi et dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire que la vie devient tout facile puis il ne se passe plus rien. Oh, je flotte dans les airs. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que lorsque le Seigneur est en moi, je sais que je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Qu'importe la situation dans laquelle je vais me trouver, le Seigneur va m'accompagner et va me soutenir dans chacune de mes épreuves. Dans la joie aussi. Hein, souvent, on parle des épreuves, mais il y a aussi dans la joie que le Seigneur est là. Le Seigneur est toujours là, présent et avec nous. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, il va se passer quelque chose. Il sera sauvé. Il sera sauvé. » Tourne-toi vers le Seigneur ce matin et tu vas être sauvé, libéré, une fois pour toutes, de l'oppression pour vivre une vie glorieuse en Jésus-Christ. Jésus nous dit dans Luc chapitre 4, verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont un cœur brisé. C'est ça que le Seigneur est venu faire. Il est venu guérir les cœurs qui sont brisés ce matin. Vous savez qu'il y en a qui nous écoutent ce matin. qui ont un cœur qui est brisé, qui est attristé. Bien, le Seigneur est le médecin des cœurs. Il sait comment nous sommes faits, c'est lui qui nous a créés. Et encore plus que ça, lorsque je préparais le message, je pensais à la Genèse où il nous a dit qu'il nous a fait même à son image. Nous avons été créés à son image. Il sait comment nous sommes faits. C'est lui qui nous a créés. Il sait encore plus comment guérir notre cœur lorsqu'il est brisé. Lui, il sait comment remettre les morceaux à leur place. Comment déboucher les artères. Hein? Il sait comment opérer. Le Seigneur ôte le voile sur le cœur afin que son esprit vienne transformer et guérir notre cœur. Nous avons besoin, frères et sœurs, que le Seigneur guérisse, agisse avec puissance, manifeste sa puissance en nous et vienne accomplir miracles. Vous savez, on peut essayer toutes sortes de thérapies, toutes sortes de choses pour essayer de guérir notre cœur, notre âme. Mais lorsque l'âme est affectée, il n'y a pas grand espoir, il n'y a pas grand-chose qui peut remonter ça, qui peut ranimer ça. Mais la main de Dieu, la main du Seigneur, par son esprit, peut redonner vie, peut redonner la vie. Dans Romains chapitre 8, verset 11, il nous a dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Dieu d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite aussi en vous ce matin. » Amen. C'est Dieu qui a ressuscité son Fils, qui a ressuscité Jésus. Et s'il a la puissance, la force de ressusciter un corps, comme il l'a fait avec Jésus, encore plus il a cette puissance pour ressusciter ton corps et ton cœur ce matin. Peut-être c'est ça que tu as besoin, que ton cœur ressuscite, revienne à vie, prenne vie. Bien, Dieu peut le faire. Frères et sœurs, nous sommes de vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit à cause que son esprit est en nous. Parce que son esprit est en nous. Nous n'avons pas à attendre un autre esprit. Nous avons l'esprit de Dieu. On n'a pas à attendre une manifestation de la puissance de l'esprit. L'esprit est en nous. Il n'y a pas deux esprits, nous dit l'Écriture. Il y a un seul et même esprit qui opère tout en tous. Dans nos vies. C'est ce même esprit qui transforme, qui vient révéler la présence de Dieu et la puissance de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Paul nous dira dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3 aussi, que vous êtes maintenant manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, par notre service, non avec l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. C'est là que le Seigneur parle. C'est là que le Seigneur se révèle. Il se révèle, oui, par sa parole, par la lettre dont il nous a laissé, par cette lettre qu'il nous a laissée. Et cette lettre est une lettre d'amour, frère et sœur. Une lettre qui vient et qui donne la joie. N'est-ce pas ce que produit l'amour? Lorsqu'on est amoureux, on est heureux. Mais l'amour de Dieu est éternel. Ce n'est pas quelque chose qui s'éteint ou qui diminue avec les années. C'est quelque chose qui est éternel. Et son amour est accessible ce matin. Parce que son esprit est avec nous. Et il est vivant. On a lu, hein? C'est une lettre, la lettre de Christ. Cette lettre est la révélation de Jésus. Et par cette révélation ce matin, elle nous est donnée afin qu'elle descende. Qu'elle ne reste pas dans notre tête, dans notre intellectuel, dans notre mais qu'elle descende dans notre cœur. C'est là qu'elle doit aller, cette lettre d'amour du Seigneur. Elle doit descendre dans notre cœur afin que l'Esprit puisse redonner vie. Nous sommes une lettre de Christ dont le ministère est connu et vu. Pas parce que tu as accepté le Seigneur que là, je ne suis plus de ce monde, je viens de disparaître. Non, nous sommes vus et connus. Et les gens, souvent, lorsqu'ils nous voient, bien, ils devraient voir. Je vais dire devraient voir la gloire de Dieu. Devraient voir la parole de Dieu. Voir le Seigneur agir. Car il est impossible pour un être humain d'adorer Dieu sans avoir reçu son esprit en lui. Donc, si tu as reçu Jésus ce matin comme Seigneur Sauveur de ta vie, tu es définitivement et pour l'éternité, tu as pour toujours son esprit dans ton cœur. C'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec ou qu'on décide. Lorsqu'on accepte le Seigneur, il vient habiter dans notre vie. C'est réglé. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une lutte. Il y a une lutte et une bataille, un combat qui commence. Le jour où j'accepte le Seigneur, il y a une bataille. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi me pousse à servir Dieu. Me pousse à connaître et à marcher selon la parole de Dieu. Contrairement à ma chair qui, elle, m'attire vers les choses de la terre. Donc, il y a une bataille qui commence. Et cette bataille-là, on peut la gagner. On peut la gagner. Comment? De jour en jour. De jour en jour, lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on s'attache à lui, lorsqu'on vient à l'assemblée, qu'on vient à l'église pour connaître le Seigneur davantage. Chaque fois qu'on fait un pas pour Dieu, il se révèle à nous. Le premier pas, ça a été de l'accepter, afin qu'il vienne enlever ce voile. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de glorieux qui se produit. Son esprit vient en nous et chaque fois qu'on lit la parole, qu'on marche pour le Seigneur, bien, il se produit quelque chose. C'est que son esprit nous dit, oh, je pense que tu devrais peut-être faire attention là. Il y a des pensées qui nous viennent qu'on n'avait pas avant ou ce que la parole de Dieu ne dit-il pas telle chose? Ne devrais-tu pas t'éloigner de telle chose, de telle personne? De telle situation. Et pourquoi l'Esprit fait ça? Afin de nous transformer de gloire en gloire vers l'image parfaite de Christ. C'est pas quelque chose qui se produit, oups, j'ai accepté le Seigneur, je suis rendu, je suis purifié, sanctifié, je suis sauvé, ça c'est réglé, mais c'est pas tout qui est arrivé. En même temps, cette journée-là, ce moment-là où j'ai fait une prière de repentance. Il y a d'autres choses qui viennent et c'est l'Esprit qui le fait. C'est l'Esprit qui vient et qui accomplit les autres choses dans notre vie. Pour certains, ont connu les miracles, la guérison, lorsqu'ils sont donnés leur cœur au Seigneur. Pour d'autres, ça a été un abandon instantané à différentes pratiques. Je pourrais dire que le Seigneur n'approuve pas, n'aime pas. Pour d'autres, parfois on entend, mais au moins, il ne s'est rien passé. J'ai grandi dans le Seigneur, puis on dirait qu'il ne s'est rien passé. Mais je pense que ceux qui grandissent dans le Seigneur ont déjà la main du Seigneur sur eux. Et aussi tant et aussi longtemps que on garde le focus sur le Seigneur nous garde et nous ramène. Même s'ils n'ont pas eu une manifestation de la puissance de Dieu, une transformation radicale au jour où ils ont accepté le Seigneur, il y a une œuvre qui s'est faite graduelle. Et le Seigneur les a protégés. On va être surpris lorsqu'on va venir dans la présence de Dieu de savoir combien de fois le Seigneur a intervenu avant qu'on le sache. Avait déjà préparé le chemin, avait déjà préparé la bénédiction, même dans la tempête. Comment est-ce qu'on allait en sortir? Combien est-ce que le Seigneur avait travaillé dans notre foi à travers notre vie? Combien d'accidents il nous a pris, hein, qu'il nous a gardés? Nous autres, on voit souvent juste le côté où ce que, oh, ça a été dur, puis c'est, ah, depuis que je suis au Seigneur, c'est tellement dur. Mais on ne s'arrête pas souvent, hein, aux bénédictions qu'on a eues aussi. Comme être humain, on est porté à regarder plus le négatif, qu'est-ce qu'on a passé comme épreuve, que les bénédictions. Et lorsqu'on s'arrête à compter les bienfaits de Dieu, hein, qu'on se met à les compter, il y avait quelqu'un qui avait partagé ça une fois, qui disait chaque fois qu'il y avait un livre, et à chaque jour, il écrivait la bénédiction qu'il y a eu dans cette journée-là. Puis s'il arrivait quelque chose de moins bien, on va dire comme ça, il l'écrivait aussi. Puis là, quand il refaisait la rétrospective de son année, quand est-ce que le Seigneur a agi? Quand est-ce que le Seigneur a intervenu? Hein? 2 jours plus tard, le Seigneur a agi. J'ai eu un téléphone tout de suite après, puis c'était réglé. Parfois, le Seigneur répond tout de suite, des fois il attend, il nous fait attendre, il nous fait patienter, il dit, on n'est pas dans un fast-food, site, prends ton temps, tu vas l'avoir ton assiette, tu vas être béni. Mais attends, ça s'en vient. Hein? C'est ça que la parole nous dit, ça s'en vient. Mais attends-le la bénédiction, parce que le Seigneur va l'envoyer un jour ou l'autre. C'est certain qu'il va le faire parce qu'il agit. Il agit. Donc, c'est sûr. Et pour nous, ça fait travailler notre espérance. Ça fait travailler notre foi. Ça fait travailler, hein, notre dépendance de Dieu aussi. En même temps, de se dire, bien, oui, Seigneur, je le sais, tu vas le faire. En ton temps. Il n'est jamais trop tard, hein? On dit, mon frère, il n'est jamais en retard. Romains chapitre 8, verset 15. Je dis ici, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est quoi la servitude? Parce que Paul dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Certains ont d'autres traductions qui parlent d'esclavage. On n'a pas reçu un esprit d'esclave. Mais nous sommes esclaves de Christ. On a besoin de rester attaché à ça. Mais on n'est pas esclave du monde ou de ce monde. Puisque nous avons été adoptés par l'Esprit de Dieu. Et cette adoption crie en nous. Parfois, se lamente. Il y a des cris, des fois, qui sont assez forts. Hein? Mais cet Esprit, là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que nous sommes sans crainte, parce que nous savons dans la main de qui nous sommes. Nous savons à qui nous appartenons. Puisque nous avons été adoptés, nous sommes maintenant appelés fils et filles de Dieu. C'est pas rien. Donc, nous ne sommes plus asservis, esclaves, mais nous sommes enfants de Dieu. Et cette position que le Seigneur nous a mise, son esprit qui vit en nous, bien écrit vers le Père. Et lorsqu'on lit Abba Père, C'est un Père qui est aimant. C'est ça que ça veut dire. C'est Père, mais Père, avec amour. Dans Galates, Paul dira aussi, Galates chapitre 4, verset 6, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, l'Esprit de son Fils. Et l'Esprit de son Fils qui vit en nous fait quoi? Il crie, lui aussi, « Abba, Père! Abba, Père! Père, Père! » À quoi ça vous fait penser? Jésus à la croix, hein? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père devait avoir toute une souffrance de voir son Fils à l'agonie, à la croix, et crier après lui sans pouvoir intervenir. Parce que lorsque Jésus disait, criait à son Père, c'était un cri de délivrance. Ce n'est pas un cri « Viens me chercher », mais c'était un cri de délivrance parce que tout était accompli. Il ne voulait pas descendre la croix. Et on le sait à cause du jardin, juste avant. Parce qu'il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Non pas ma volonté, même dans les temps les plus difficiles. « Seigneur, c'est ta volonté que je souffre, mais Seigneur, je la mets entre tes mains. » Certains passent par des moments parfois très difficiles. Hein, des fois, cette semaine, on commence à avoir le cœur gros. Moi, grand-maman, 103 ans, fait 3 jours qu'il ne mange pas, puis elle se réveillait des douleurs, ainsi de suite. Là, on peut penser à la douleur que Dieu avait pour son Fils, qu'il aimait, mais qu'il ne pouvait pas intervenir parce que il ne voulait pas, à cause de l'amour qu'il avait pour nous, qu'il a pour nous. Il ne voulait pas que Dieu intervienne. C'est pas qu'il n'avait pas toute la puissance pour faire quelque chose. Il aurait pu demander des myriades d'anges qui descendent puis le délivrer de la croix. Mais non, ce n'était pas son but. Son but, c'était de nous aimer et qu'on l'aime comme lui nous aime. C'était ça son but. Jésus nous dit ceci lorsqu'il est tenté par le tentateur dans le désert. Dans Luc chapitre 4, verset 8, Jésus dit à Satan, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Car c'est la parole du Seigneur sont précieuses et d'une grande importance pour chacun de nous encore ce matin. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? C'est nous faire taire. C'est qu'on se taise. On arrête de parler. On arrête de parler de qui? De la Bible. De Jésus. De ce qu'il peut faire. De la délivrance, de la guérison qu'il accomplit. De cette relation que nous avons aussi avec lui. L'adoration est l'action d'adorer par un amour ardent ou profond pour quelqu'un. Adorer, c'est un verbe qui est aussi un synonyme de prier, de rendre un culte, d'aimer passionnément, apprécier beaucoup et rendre honneur et gloire. C'est ça, adorer. Et nous, nous sommes appelés à être des adorateurs. Ça se passe comment? Pas seulement lorsqu'on loue le matin avec les chants. Et c'est pour ça que je trouvais ça bénissant. C'est même dans le service qu'on adore Dieu. C'est même à chaque fois que je rouvre la parole, que j'adore Dieu. Chaque acte spirituel qu'on accomplit, on adore le Seigneur. Et même le culte au complet, en entier, les dimanches matins, sont une adoration que Dieu prend plaisir. C'est comme un parfum de bonne odeur qui monte dans sa présence. Pourquoi il y avait de l'encens dans le temple? Pourquoi les animaux étaient sacrifiés? Lisez l'Ancien Testament. Parce que Dieu aimait l'odeur. Et lorsque l'Esprit et Christ vivent en nous, nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Il aime cette odeur. Du sacrifice qui a été accompli une fois pour toutes, de chaque sacrifice qu'on fait pour lui, de chaque fois où on adore le Seigneur, de chaque fois qu'on lui rend un culte, passionnément, avec passion. C'est comme ma sœur qui dit, « Moi, malgré ma semaine, j'ai eu des combats, j'ai eu des dialyses, toutes sortes de choses. Il n'y a rien qui va m'empêcher d'aller voir le Seigneur, de venir en présence de Dieu, de venir rencontrer mon Dieu. J'ai besoin de l'adorer. Ça fait partie de notre vie comme chrétien, frères et sœurs. C'est pas quelque chose qu'on dit, « Ah, matin, bof, je vais passer mon tour, je n'adorerai pas Dieu. » Et c'est pas un choix, hein? Pour quelqu'un qui vit et qui sait ce que ça produit. Moi, depuis que je suis sauvé, je n'ai pas manqué beaucoup de dimanches. Je pense que je pourrais compter sur une main. Parce que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de ne pas être là. Je ne suis pas capable de ne pas aller dans la présence de Dieu. Je ne suis pas capable de manquer un dimanche et de dire après ça, de quoi que parler, il faut que j'attende, je ne peux pas le voir. Nous, on est en direct à cette heure, mais si on peut être là, c'est encore meilleur. Parce qu'on a notre temps de louange, notre culte avant aussi, où on est ensemble en famille, entre frères et sœurs, on s'édifie les uns les autres. Mais le fait est qu'on a besoin. Ce n'est pas quelque chose que, ah, ce dimanche-là, je vais passer, ce n'est pas grave, j'irai la semaine prochaine. Quand je fais ça, ça me travaille en dedans. Je ne sais pas, ça vous produit la même chose, mais moi, lorsque ça m'est arrivé que je n'ai pas pu être là à un culte un dimanche, ça me fatiguait. Je dis, qu'est-ce que je manque là? J'ai tant peur de manquer quelque chose. Et c'est vrai que je manque quelque chose. C'est vrai, parce que je manque d'avoir plu à Dieu. Je manque d'avoir fait mon devoir envers le Seigneur de l'adorer. Et comme on disait au départ, au début, ce sont les vrais adorateurs que Dieu cherche. Pas ceux qui sont passagers, ceux qui vont de temps en temps, ou ceux qui en ont besoin, ils pensent en ont besoin de temps en temps. Mais commencez à aimer ça, puis vous allez voir ça, que vous serez plus capable de vous en passer. Plus qu'on goûte à la présence de Dieu, plus qu'on adore le Seigneur, plus qu'on a besoin et qu'on le recherche. C'est ça que ça produit. Se convertir au Seigneur, c'est ce que ça l'apporte. Un désir de vouloir plus de lui. De vouloir le connaître davantage. De pouvoir faire partie aussi de la mission. De la mission. C'est quoi la mission? Partage l'Évangile. Partage cette joie que tu as en Jésus-Christ. Partage cette joie que Dieu et l'Esprit est en toi. Qu'est-ce que ça t'apporte? Peut apporter aussi aux autres. Jésus nous a montré ce que produit l'adoration, comme pour ses disciples, il les bénit, il les a bénis, et par reconnaissance et révérence, ils ont fait quoi? Ils l'ont adoré et loué. On voit ce texte dans Luc 24, Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 50 à 53. Il les conduisit en parlant de ses disciples jusque vers Béthanie et ayant levé les yeux, il les bénit. Vous savez que les disciples ont été bénis par le Seigneur? Et la même chose pour nous, n'est-ce pas la prière que Jésus a faite pour nous dans la prière sacerdotale, dans Jean 17? Je prie pour eux, afin qu'ils soient gardés, afin que tu les gardes, en parlant à son Père. Et Jésus a béni. Il a béni ses disciples. Et pendant qu'il les bénissait, il s'est séparé d'eux et fut enlevé au ciel. Juste avant de partir. Et pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Verset 53, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'est ce que ça produit lorsque le Seigneur nous bénit, frères et sœurs. On a encore plus le goût de l'adorer. On a encore plus le goût de s'approcher de lui. Ah, ça produit une vraie joie. Quelque chose qui monte en nous, hein, que on n'a pas de contrôle. Et c'est le Seigneur qui fait ces choses. Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous satisfaire autant que d'adorer Dieu. Parce que ça fait du bien. Après avoir été bénis, ils l'ont adoré. Ensuite, ses disciples s'en sont retournés avec une grande joie. Même après son départ. Ils n'ont pas été dans la tristesse. Jésus est reparti dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? On est fini. Il n'y a plus rien qui va se passer. Non, ils ont été remplis de la joie de Dieu à cause de cette bénédiction qu'ils venaient de recevoir. Mais Jésus leur a promis d'autre chose, le Saint-Esprit. Mais sur le coup, moi je sais que lorsque je vais être dans la présence de Dieu, je ne voudrais plus quitter cette place. Ça, je suis sûr de ça. Parce que chaque fois où ce que j'ai senti la présence de Dieu, je voulais rester là. Peut-être que ça vous est déjà arrivé dans l'adoration, dans les chants, louanges, on est en présence du Seigneur, puis on sent la présence de Dieu nous entourer. Et ça fait tellement du bien. Un moment où ce que tout peut, on peut tout relâcher dans sa présence. Et on a envie de rester là. Si adorer est une action de grâce, un remerciement, nous pouvons aussi dire que louer le Seigneur, Jésus apporte la joie dans notre cœur. Les chants cantiques spirituels, comme nous louons, comme nous chantons au Seigneur, sont des louanges inspirées que nous chantons, qui touchent le cœur de Dieu et transforment des vies seulement si elles proclament l'Évangile et élèvent le Seigneur. Je pourrais chanter n'importe quel chant, des tunes, comme un frère dit des fois. Je pourrais chanter n'importe quel tune du monde, ça ne fera pas le même effet que lorsque je chante des cantiques à l'Éternel. Lorsque mon cœur y est et que je loue le Seigneur de tout mon cœur, il n'y a rien qui peut faire plus de bien que ça. Les tunes du monde, ils n'ont pas cet effet-là. Et c'est pour ça que les chants que nous chantons, ces cantiques, ces hymnes que nous chantons au Seigneur, doivent proclamer l'Évangile et Jésus, Jésus-Christ. Pas autre chose. Parfois, il y a des cantiques, même qui se disent spirituels, qui sont chantés, puis qui ont... ils n'ont pas de sens face à l'Évangile et face au nom de Jésus. On chante tout, sauf le nom du Seigneur. On a besoin de chanter Christ. On a besoin de chanter des louanges qui apportent l'Évangile. et qui élève le Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Lorsque le Seigneur touche notre cœur, c'est clair que c'est ça qu'on veut chanter. Et il faut faire attention de ne pas laisser entrer d'autres choses. Même si des fois, la toune est bien smooth et que ça a l'air bon, si les paroles n'élèvent pas le Seigneur, ça n'aura pas l'effet qu'on a besoin. Ça n'aura pas l'effet que le Seigneur désire aussi. Notre Père céleste est un grand Dieu. Et nous devons, comme nous dit Hébreux 13, 15, par Jésus, offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange ou d'éloge à Dieu, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse, reconnaît et déclare et dit ouvertement son nom. Vous savez, c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. C'est ce nom-là qu'on a besoin de proclamer, qui doit être annoncé, même par nos chants, par nos louanges. Nous devons offrir à Dieu, et c'est ce genre d'adoration que Dieu recherche, c'est le genre d'adorateur que Dieu recherche. Ceux qui offrent à Dieu les sacrifices de louanges qui confessent le nom de Jésus, qui dit le nom du Seigneur, qui ne se cache pas. Notre Père céleste est un grand Dieu qui désire que nous nous approchions de lui par son esprit, car il désire et recherche de vrais adorateurs. C'est ça, des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs confessent le nom de Jésus. On n'a pas peur du nom du Seigneur. On n'a pas peur de dire, c'est Dieu qui agit. On n'a pas peur de dire, c'est Jésus qui transforme, qui guérit. C'est lui qui fait des miracles. C'est en Jésus et par Jésus. C'est lui que nous avons besoin. Psaume 145, verset 21, nous dira ceci, et je pense que c'est la pensée qu'on doit retenir ce matin et mettre dans notre cœur, descendre dans notre cœur, je dirais même, que ma bouche publie les louanges de l'Éternel. Psaume 145, verset 21. Que ma bouche publie la louange de Dieu. Que ma bouche proclame le nom du Seigneur ce matin. Et que toute ma chair, que toute chair bénisse son saint nom. À toujours et à perpétuité. Amen. Ça se finit là. Ainsi soit fait, Seigneur. Que ce soit fait ainsi que ma bouche publie tes louanges et que toute bouche confesse le nom du Seigneur ce matin. Wow! C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. Pas besoin d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose qu'on a besoin que publier, nommer même le nom du Seigneur. Ça fatigue certains. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui se poussent. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais il y en a qui écoutent. Il y en a qui cherchent. Et le Seigneur se laisse trouver par ceux qui cherchent et ils vont mettre ses paroles dans ta bouche. Qui va faire que lorsque tu vas dire, c'est la parole de Dieu que nous croyons. Et la parole de Dieu nous révèle Jésus. À travers tout l'Ancien Testament, on voit la christologie de l'Ancien Testament et le Christ vivant dans le Nouveau Testament. Toutes les prophéties nous amènent à croire en Christ. Et même Moïse, qu'est-ce qu'on lisait tantôt, lorsque le voile est enlevé, qu'est-ce qui se produit? C'est Christ qui est révélé. directement Christ qui est révélé. Pas par des paraboles, toutes sortes de façons, mais c'est clair. Parce qu'il vient habiter et prend toute la place. Remercier et être de vrais adorateurs doit faire partie du quotidien du croyant, régénéré par lui. Car n'oublions pas que cela se poursuivra jusque dans l'éternité. Lorsque je pense à ça, qu'est-ce que vous allez faire pour l'éternité? On va louer le Seigneur. Mais c'est pas ça que vous faites? Oui, mais on va le faire gros. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Avez-vous pensé, lorsque on lit dans la révélation de Jean dans l'Apocalypse, lorsqu'il dit les myriades d'anges louaient l'Éternel et les rachetés, ceux qui ont été lavés leurs robes dans le sang de Christ, élèvent leur voix et louent l'Éternel. Avez-vous pensé? À des fois, on est une centaine, 200 à louer le Seigneur dans une salle, des fois 300 et 1000 à certains endroits où qu'on loue le Seigneur. Et on est là, wow! Vous pensez d'une myriade d'anges qui louent Dieu et qu'on va joindre à ces anges pour louer l'Éternel? Ça va être... Il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Je dis, c'est juste ça que tu attends, toi, mais que tu es dans le royaume de Dieu? Oui. J'en ai assez. Je me contenterai de ça. Il va y avoir des noces, il va y avoir de différentes choses, une cité d'or, tout, des pavés d'or, puis du cristal, puis ainsi de suite. Mais ce que je désire le plus, c'est de louer l'Éternel. C'est de louer Dieu. Ça fait tellement du bien. On est tellement bien loué, Seigneur. J'aurais beau avoir tous les présents, toutes les richesses. Comparer les richesses à louer Dieu, bien, je prends louer Dieu. Parce que la richesse, ça dure un temps. Mais louer Dieu, c'est quelque chose qui réjouit le cœur pour l'éternité. Ça ne s'arrête pas. C'est continuellement la bénédiction et la paix. Et la paix. C'est ça que j'ai besoin. Apocalypse 22, chapitre 22, versets 16 et 17. À la fin, dernier livre de ce livre d'Apocalypse. Dans ce dernier chapitre, chapitre 22, versets 16 et 17. Il dit, « Si moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il y a un point. Ah, j'ai pas besoin d'église. J'ai pas besoin d'aller à l'église. Nous sommes le temple du Seigneur. J'ai envoyé ces anges, mon ange, pour vous attester ces choses dans les églises. On a besoin de venir à l'église pour recevoir la révélation du Seigneur. Le Seigneur se révèle. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin, nous dit Jésus. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens » et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Ça ne coûte rien, nous, Seigneur. C'est gratuit. Mais ça fait un bien extraordinaire. Et lorsqu'on va être dans la présence du Seigneur, c'est ce qu'on va entendre. La gloire de Dieu, l'adoration. Donc, l'heure est venue. Je reviens à notre texte de ce matin dans Jean 4, verset 23. L'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Ou par l'esprit, si vous voulez. et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qu'il cherche. Est-ce que vous êtes attentif à l'appel du Seigneur ce matin, à l'appel de Dieu? Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent aussi, ou l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Bien, frères et sœurs, nous sommes appelés à adorer Dieu, adorer Seigneur. Et remercier, adorer Dieu, bien, ça produit en nous le service, de vouloir le servir, de vouloir faire sa volonté, de vouloir marcher selon ses préceptes. Mais surtout pour ce matin, de louer l'Éternel. On va terminer avec un mot de prière. Ensuite, on va aller au dernier chant. Je vous invite à vous lever. Bien, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci pour cette parole qui nous édifie, qui nous fortifie. Et Seigneur, qui nous donne ta paix, l'espérance. Et Seigneur, merci pour ton esprit, oui, qui est en nous, qui vit en nous et qui produit en nous cette adoration. Une adoration qui ne vient pas seulement d'intelligence, mais qui part du cœur, qui part d'un cœur qui est reconnaissant pour tout ce que toi tu accomplis, pour tout ce que toi tu fais dans chacune de nos vies. Seigneur, apprends-nous par ton esprit à te louer davantage. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à t'adorer davantage, afin, Seigneur, que notre adoration puisse produire en nous la mission, mais aussi, Seigneur, ce désir de te servir, de voir marcher, grandir à tes côtés. Seigneur, merci pour tout ce que tu accomplis dans chacune de nos vies, soit avec ceux qui sont malades ce matin, ceux qui souffrent dans leur corps, soit avec ceux qui souffrent dans leur être intérieur, qui se sentent loin de toi. Seigneur, que ton esprit repose sur eux ce matin, que ta puissance, Seigneur, soit manifestée dans leur vie, dans leur cœur, afin, Seigneur, qu'ils puissent t'adorer et partir joyeux, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, fais tout cela, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et Seigneur, merci parce que tu nous dis que tu viens bientôt et que cette espérance, Seigneur, que tu m'as mis en nous, bien, elle est vivante pour ce temps, mais pour l'éternité aussi, Seigneur. Sois béni et glorifié, Seigneur, dans chacune de nos vies. Et reçois toute gloire, tout honneur, toute puissance de notre part. Reçois, Seigneur, tout cela comme un parfum de bonne odeur de ta présence ce matin, dans le précieux nom de Jésus. On te remercie pour toutes choses. Amen et amen. Soyez bénis, passez une belle semaine dans la présence et l'adoration de notre grand Dieu. Amen.